Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En poursuivant la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt, aux éditions Robert Laffont, nous commençons le texte du jour avec quelques mots sur le rabbin de Lubavitch. Frank et June l'avaient rencontré lorsque, leur séjour dans le Massachusetts terminé, ils étaient arrivés à Brooklyn. Ce premier contact avec les hassidim du mouvement Lubavitch n'a pas laissé à eux un bon souvenir, bien que ce grand rabbin, Schneeborn, soit considéré par les adeptes comme le Messie. Sa mort semble avoir éteint un espoir de paix et de bonheur pour le monde juif, dit-on, et certains pensent même qu'il ressuscitera. Mais la vie continue à Kiryat Arba, et June va écrire « Cette année a beaucoup changé les choses pour nous. Les événements vont si vite que mon stylo a du mal à les suivre. » Alors, reprenons notre lecture pour tenter de ne rien perdre de ce qu'elle va nous partager. 10 juin, vendredi ordinaire, hurlement du muezzin, les versets sacrés du Coran et beaucoup de « morts aux Juifs ». Était-ce ainsi que priaient les Arabes le 25 février ? Peut-être bien que moi aussi, si j'avais un fusil entre les mains, j'aurais voulu leur tirer dans le cul. Je regrette ce que je viens d'écrire. C'est odieux et sanguinaire. Je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Ma quête des Indiens a dégénéré en haine des Arabes. L'alternative de Hamlet est bien enviable. Pour nous, c'est tuer ou être tué. 12 juin. Le grand rabbin de Lubavitch est mort aujourd'hui. 29 ans avant les 120 années que sont supposés vivre les vertueux et une éternité en avance sur le Messie. Une note. Une grande partie des hassidim du mouvement Lubavitch ont considéré le grand rabbin Schneerson comme le Messie. Estime dit, et alors, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant pour les hassidim des Lubavitch? Le Messie devait racheter nos fautes. Pas en mourir. Le rabbin de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, aurait dû être notre rabbin lorsque Frank et moi arrivâmes à Brooklyn après avoir quitté notre yourte mongole du Massachusetts. Mais il ne sembla pas nous vouloir comme hassidim. À la différence de la plupart des jeunes mariés, il ne nous fut jamais permis d'assister à ce quart d'heure d'audience qu'il donnait et pendant lequel il bénissait les époux. Nous pouvions interpréter cela de deux manières. Soit nous n'étions pas dignes d'être bénis. Quelque chose d'important, d'essentiel, souillait nos vies. Nous étions intouchables et il n'était pas pensable que nous allions vers la félicité. Nous n'aurions même pas dû nous marier. Soit il fallait considérer son refus comme une invitation à suivre notre chemin par nous-mêmes, en solitaire et sans aide. Nous n'étions pas destinés à devenir les disciples de qui que ce soit. Nous n'avons jamais eu de réponse à ces questions. Et cette ambiguïté fut souvent douloureuse. Combien de fois, sombrant dans le doute et le désespoir, luttant contre la douleur qui semblait vouloir me détruire l'esprit, combien de fois n'ai-je pas envié des camarades arrivés à Brooklyn en même temps que nous? Sarah, par exemple, une fille à l'abondante chevelure blonde et aux éclatants yeux bleus. Elle avait accompli un long et tortueux voyage en Inde pour rejoindre un gourou. Et le gourou lui dit « Tu es juive? Retourne à tes racines !» Elle redescendit de ses montagnes, considérée comme une sainte femme, et s'envola vers ses racines de Brooklyn. Elle étudia avec moi au séminaire pour les filles revenant au judaïsme, trouva l'homme de sa vie, se maria, acheta une maison près de celle du rabbin où elle vit encore avec son mari et 3 enfants. Elle, son mari et des centaines d'autres hassidim ne faisaient rien sans en référer au rabbin. Ils le questionnaient pour chaque décision. « Dois-je accepter ce travail? Dois-je faire ce voyage en Israël cet été ?» Et sans la bénédiction du rabbin, cette femme qui avait autrefois eu le courage de traverser l'Inde en solitaire et de passer des montagnes ne fera plus rien. Sans cette bénédiction, je sais que de vieux amis professeurs d'histoire ou de biologie, des réalisateurs de films, des aventuriers, d'anciennes prostituées de Calcutta, des geishas japonaises n'oseront plus jamais faire un mouvement de crainte d'en subir des conséquences. C'est une grande lumière qui s'est éteinte. On disait qu'il y avait de par le monde 36 vertueux. Si jamais cela est vrai, il n'en reste plus que 35. Le rabbin n'était pas mon gourou, mais je l'ai vu une fois d'assez près pour me rendre compte qu'il possédait un étonnant pouvoir de concentration. Sans aucun doute, c'était l'un des plus puissants esprits juifs. Ses disciples le considéraient comme un prophète. Selon eux, il était capable de prévoir le futur. Des milliers d'histoires circulaient sur sa perception miraculeuse des choses et l'on estimait qu'il avait un contact direct avec le Créateur. Lorsque nous étions dans les Katsil, le rabbin eut sa première attaque cardiaque. Alors qu'il était encore sous perfusion, il continua à donner à ses disciples la preuve que le système sanguin humain est une allégorie de notre monde, lui-même compris dans l'ensemble des mondes qui forment l'univers. C'est une référence à l'échelle de Jacob de la Kabbale qui décrit les différents niveaux du monde visible et invisible. Il mangeait très peu et dormait moins encore, étudiait la Torah des nuits entières, se reposait un peu puis recommençait. Ceux qui virent en lui le Messie étaient persuadés qu'il viendrait en Israël pour se faire couronner. Ils allèrent même jusqu'à construire un palais pour lui à Kfar Chabad, non loin de l'aéroport de Jérusalem. Il le voyait vivre là et porter Israël dans ses frontières bibliques. Il devait aussi ordonner la reconstruction du temple sacré. Les Juifs devaient commencer à offrir des sacrifices pour se purifier de leurs péchés. La vache rousse, déjà née et brûlée, ses cendres purificatrices préservées. Une note. Vache rousse. Référence à Nombre 19, verset 2. Dis aux fils d'Israël qu'ils se procurent une vache rousse parfaite, en laquelle il n'y a pas de tare et sur laquelle n'a pas été posé le joug. C'est un rite de purification des Hébreux nomades. Tous les Juifs morts dans les siècles et les siècles devaient ressusciter. Les âmes réincarnées devaient danser autour du temple et l'espace autour du temple s'accroît miraculeusement pour les accueillir. Alors, il n'y aurait plus d'Amalek, plus de pierres et de balles de fusil pour frapper et tuer ces joyeux danseurs. Pour toujours et sans retour, les Amalécites seraient chassés du monde des Juifs. Hélas, Rebbe Menahem Mendel Schneerson est mort, et avec lui, un merveilleux espoir de paix et de bonheur s'est éteint. 14 juin. Yair, ce berger qui vit comme Abraham, dont j'ai parlé et qui déjà échappa par miracle à la mort, a été battu cette fois par des bergers arabes. Ils l'ont frappé avec des pierres, le laissant inconscient dans un champ. En se réveillant, il est parvenu à ramper jusqu'à sa caravane. Il refuse de voir un médecin. Mon épicier aujourd'hui me dit que le Messie sera bientôt là. Menahem Mendel Schneerson va ressusciter. Derrière de nombreuses fenêtres de Kiryat Arba, des néons apparaissent. Ils représentent le portrait souriant du rabbin de Lubavitch, avec clignotant ces mots en hébreu « Longue vie au roi, notre Messie ». 15 juin. L'insupportable réalité ne rend que plus tenace la croyance en le Messie. Je suis certaine que Baruch Goldstein, lorsqu'il s'étendait dans l'herbe et faisait face aux cieux, cherchait quel exploit sortirait enfin le roi de son hibernation et le ramènerait jusqu'à notre monde fermenté. Il assura un jour que quelque chose de grand allait avoir lieu, quelque chose qui arrêterait ce processus de paix dans lequel Israël, qu'il adorait, disparaîtrait peu à peu. Peut-être a-t-il pensé que son « au fait » réveillerait les consciences et que ce réveil lui-même réveillerait le Sauveur. Nos amis, ceux qui ont un fils handicapé mental, auquel Baruch racontait et écrivait des histoires, nous ont montré le cahier que j'avais déjà vu. La dernière phrase écrite par Baruch est « Demain, c'est Pourim, sois heureux !» Et le lendemain, il ouvrit le feu sur des Arabes en prière. Et le processus de paix se poursuit, et les gens continuent de mourir. Et à ce jour, personne n'a été ressuscité. 17 juin. Une femme dont le mari est mort dans un attentat vient de raconter son rêve à Franck et à Samuel. Un ange de la mort lui apparut. Il lui annonça qu'elle mourrait bientôt si elle ne devenait pas meilleure. « Comment puis-je être meilleure ? » demanda-t-elle. « Tu suis les lois juives, mais tu en as oublié une. Et laquelle ? » ?»« Tu n'es pas heureuse. Tu dois t'efforcer d'être heureuse. » Franck a rencontré David. David continue d'organiser son plan pour mourir en martyr de la paix. Mes enfants entonnent une nouvelle chanson sur Baruch. Un jour, un vendredi vif et clair, Baruch s'est réveillé. Au caveau des patriarches, il est allé prier. Là, il a vu des Arabes, des gros et moches. Alors, il a pris son fusil et leur a fait des trous dans le vide. Beaucoup de gens quittent Kiryat Arba. La plupart sont des immigrants russes. Je ne les blâme pas. On les a embarqués dans une sale histoire. Le gouvernement a passé un bon marché avec eux pour qu'ils quittent la colonie. L'idée de la gauche, je suppose, est de nous affaiblir. Ils se trompent. Kiryat Arba est simplement moins surpeuplée et un peu plus tranquille. Je crois qu'après tout, nous allons rester ici. 19 juin. Cette année a beaucoup changé les choses pour nous. Les événements vont si vite que mon stylo a du mal à les suivre. Franck et moi allons à nouveau tenir bon sur la houle de notre vie. Ce journal va être publié et témoigner de notre existence ici. CBS va faire un reportage sur Kiryat Arba et nous y participerons. Hier, nous sommes allés à l'extérieur de Kiryat Arba, jusque dans un champ de vieux et noueux oliviers. Franck a posé sa tête sur mes genoux et nous nous sommes fait de nouvelles promesses. Nous allons nous accorder cette vie publique pour quelque temps, puis nous reviendrons à nos travaux de l'ombre. Nous avons fait des vœux de fidélité, d'humilité, de simplicité, afin que ni l'argent, ni la gloire ne puissent jamais nous corrompre et nous détourner du chemin de la vérité. 26 juin. Les garçons sont partis tôt ce matin pour une marche dans le désert de Judée où ils veulent faire de l'alpinisme sur des falaises. Et oui, ils vont apprendre à faire de l'escalade avec tout ce qu'il faut, cordes, pitons, etc. Nous les avons encouragés à n'avoir peur de rien, au contraire de nous. Et ils n'ont peur de rien. Il y a quelques jours, comme je montrais ma crainte pour ce genre d'expédition, ils me répondirent « N'as-tu pas écrit dans ton journal ? Je sais que le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants est de leur laisser la liberté de faire des choses fortes et positives. » La route de Jérusalem a complètement changé d'aspect. Les barrages de l'armée ont disparu, et les soldats aussi, à la sortie de Kiryat Arba, comme de Ramat Mamré. De nouveau, les Juifs se déplacent seuls. Ils s'arrêtent même au bord de la route pour acheter des prunes. Aux Arabes, entrent dans les boutiques, marchandent ici ou là. Juifs et Arabes retravaillent même ensemble pour installer une conduite d'eau près de Gush Etzion. La vigilance n'est plus de saison, comme si toutes les instructions de prudence de l'armée étaient annulées. Des Juifs attendent seuls l'autocar sur la route d'Hébron à Jérusalem, où circule une majorité de voitures arabes. Le besoin de retour à une vie normale est plus fort que toutes les craintes. Il est si fort que l'on en oublie jusqu'au dernier voisin qui fut assassiné. Premier juillet, les Arabes soufflent dans des trompes. Outre que nous sommes un vendredi, Arafat vient aujourd'hui en Israël. Il doit passer à Gaza, puis à Jéricho. Il est à Gaza, où il fait un discours, déclarant que ce n'est là qu'un premier pas, Hébron sera le second sur sa route de Jérusalem. Franck dit qu'il a raison. Hébron et la porte pour entrer victorieux dans Jérusalem. Il nous faudra donc l'arrêter à Hébron. 28 juillet. Les seules vraies conversations que j'ai ont lieu dans le car en allant à Jérusalem. Lorsque Hébron s'éloigne dans mon dos, je me détends. Je discute avec des femmes que je connais depuis des années. Aujourd'hui, c'était avec Judith. Après avoir passé une dizaine de jours en Italie, elle est revenue toute brûlante d'amour pour Israël, où, mieux qu'avant encore, elle trouve son miel et son lait. Elle a appris, dit-elle, qu'il y avait certaines choses pour lesquelles on pouvait mourir. La patrie en est une. Peut-être ne mourra-t-elle pas, ni moi, ni les miens. 29 juillet. À cause du rapport de la commission Shamgar sur le massacre de Pourim, la veuve de Baruch, Myriam, a rompu le silence qu'elle s'était imposé jusqu'ici. Selon la loi israélienne, si quelqu'un passe devant une commission d'enquête, il a le droit de se faire assister par un avocat. Et s'il est mort, ce droit revient à sa famille. Or, on ne lui a jamais donné ce droit et la commission insulte le nom de Baruch, le traitant de meurtrier, sans avoir entendu sa défense. Dans quelles circonstances a-t-il été tué ? Demande-t-elle. Les Arabes ont-ils essayé de lui voler son arme ? A-t-il été attaqué ? Le gouvernement n'a arrêté ni jugé aucun de ceux qui tuèrent son mari ce jour-là. S'il y avait eu un jugement, les circonstances exactes du massacre pourraient être connues, les faits précisément mis en lumière. Ce n'est pas le cas, et bien des choses restent dans l'ombre. Pourquoi le gouvernement a-t-il refusé que la justice passe normalement? Selon l'Institut médico-légal d'Abu Kabir, Baruch fut tué avec un lourd objet métallique alors que déjà il était inconscient. La jurisprudence en Israël veut que, si l'on tue un terroriste après l'avoir neutralisé, on soit passible d'une peine de prison. Une cour vient d'infliger la prison à vie à un colon de Mal-Ever, Yoram Cholknik, pour avoir tué un arabe qui venait de poignarder un de ses voisins. Elle se basa sur le fait que le terroriste était déjà capturé et neutralisé lorsque Yoram l'abattit. Dans ces conditions, si nous sommes dans un état de droit, qui a tué Baruch? Frank a montré sa correspondance avec la police à Myriam. Le 6 avril, il porta plainte, signalant qu'il avait des raisons de penser que Baruch avait été tué alors qu'il était capturé, désarmé et inconscient. Lorsqu'une plainte est déposée, la police doit répondre. Et ils répondirent qu'ils ne pouvaient poursuivre leur enquête tant que la commission Shamgar faisait la sienne. Désormais, c'est fini. Mais où est la justice quand il y a deux poids et deux mesures, l'une pour la gauche et les Arabes, et l'autre pour les colons? Pendant le repas du Shabbat, nous avons parlé d'Arafat. Frank dit que c'est un prophète du diable, mais un prophète néanmoins. Il sait qu'Hébron est sur la route de Jérusalem, non seulement matériellement, mais aussi symboliquement. Il sait que David fut couronné roi de Judée et d'Israël dans Hébron, puis il marcha sur Jérusalem. Discussion avec Frank, car je me sens devenir aussi trop mystique et trop religieuse. J'ai commencé un roman en étant agnostique et je termine avec ce journal où Dieu apparaît dans chaque page. Pourquoi suis-je redevenue si pieuse après des années de doute? Pourquoi aimer à nouveau Hébron alors que ce journal croule sous les critiques? Mais sans doute est-ce là l'effet d'Hébron? Même si l'obscurité nous accable pendant l'hiver, spirituellement et physiquement, même si la lumière de Dieu s'y estompe et nous abandonne entre Hanouka et Pourim. Mais en ce moment, tout est si lumineux, l'intensité spirituelle si forte qu'il nous faudrait nous sauver pour reprendre un grand bol d'humeur profane. Je ne veux pas perdre mon autonomie. Même soumise et redevable à Dieu, je veux pouvoir garder le contrôle de mes mots. Si je deviens trop bigote, je perdrai le contact avec la plupart des humains. Et c'est pour eux, me semble-t-il, que j'écris. Et me voilà encore avec une analogie biblique. Balaam prit la parole pour maudire Israël, mais il le bénit malgré tout. Aujourd'hui, les regards, la presse, les télévisions du monde se tournent vers nous. Derrière la façade d'une civilisation hypomoderne, ils perçoivent une autre réalité. Et moi, j'accompagne leurs regards. C'est pour ce réveil-là que j'ai souffert ici pendant des années. C'est pour cela qu'un jour, je suis partie à pleine file à la recherche de tipis indiens, d'une calme et paisible destinée. 17 juin. 17 balles de Kalachnikov ont traversé la voiture de notre voisin ce soir. À l'entrée de Kiryat Arba, à l'endroit où d'ordinaire l'on remercie Dieu d'être en vie et où l'on commence à se détendre. Sarit Prigal, 17 ans, année morte. L'une des balles est entrée derrière son crâne, traversant sa cervelle, expulsant un œil de son orbite et le faisant tomber dans la main de son père. Sans un cri, la tête de Sarit a basculé sur l'épaule de son père qui venait lui-même d'être blessé, ainsi que son fils. Esti, que je voudrais tant protéger de ces horreurs, a couru vers le lieu de l'attentat dès que nous l'avons appris. Le sang de Sarit imbibait les sièges de la Citroën blanche, troué par les balles comme une passoire. Samuel aussi l'a vu, mais il est fort. Et Yossi, il a la mer et son académie navale pour se laver les yeux. Joshua ne voulait pas voir, mais dormir. Et Myriam est allée au lit en pleurant. Les Prigalles sont arrivés d'Inde il y a 8 ans et vivent dans notre immeuble. Madame Prigalle est orpheline. Jeune fille, elle a assisté à l'assassinat de son père par des extrémistes hindous. Et maintenant, sur le lieu de l'attentat, les voisins chantent des psaumes ou restent là, assommés par la tristesse. Des jeunes mettent le feu à des broussailles dans des champs arabes. Des soldats tentent de repousser tout le monde dans la colonie et d'en refermer la porte. Une bagarre commence entre un vieux résident, un immigrant américain père de 10 enfants qui veut ouvrir la barrière et les soldats qui veulent la refermer. Ils forment un barrage humain pour que les colons ne descendent pas à Hébron pour se venger. Des hommes des pompes funèbres lavent déjà la terre qui porte le sang de Sarit. La colère des colons s'accroît. Mes fils sont avec eux. Les soldats lancent des grenades lacrymogènes pour les disperser alors que les Arabes commencent à faire la fête. En bas de leur maison viennent des sifflets et des applaudissements en l'honneur du meurtre de la jeune juive. 8 juillet. Il est une tradition juive qui dit que les âmes se réincarnent dans le monde pour réparer les péchés de leur vie passée. Et que, cela étant accompli, elles s'en retournent dans l'éternité. Les dévots l'évoquent pour Sarit. Son temps sur la terre était fini. Moi, je demande, est-il besoin de repartir avec une balle dans la tête et en abandonnant un œil dans la main de son père? Si un être a accompli son devoir, corrigeant ses imperfections, ne peut-il mourir dans son lit? C'est juste une question que je pose. Tôt ce matin, des colons ont investi des immeubles à côté de Kiryat Arba, à Jivat Itchak. Ils ont ouvert des logements vides depuis plus de 2 ans et que le gouvernement de gauche avait gelé, laissé sans eau ni électricité afin qu'ils ne puissent être vendus ou loués. Cette occupation est la réponse des sionistes au meurtre de Sarit et l'avertissement que la colonisation juive se poursuivra. On peut tuer des juifs, il en viendra d'autres et d'autres encore. Samuel est avec les jeunes qui sont entrés dans les immeubles. La police s'est déployée en grand nombre, interdisant l'accès au site et attendant les ordres du gouvernement. L'armée est prête à intervenir avec tout ce qu'il faut pour déloger les occupants, depuis les chiens d'attaque jusqu'aux balles de caoutchouc. Mais dans les immeubles, l'atmosphère est celle d'une fête. Les filles et les garçons, les parents et les enfants entonnent des chansons du retour à la terre promise. Difficile de croire que Sarit est morte hier soir. C'est encore une fois la manière bien juive de surmonter les plus horribles persécutions et le doute qui suit l'épreuve. Le muezzin crie son « Itzbar El Yehoud ». Hier, il y a eu un autre mort. Un jeune soldat qui rejoignait sa base dans le Negev, kidnappé puis assassiné. Givat Itzhak s'appelle désormais Ashmora Itzhak, un acronyme formé avec les noms de victimes du terrorisme. Les Juifs sont très forts en poésie de la mort. Moi, je suis fatiguée d'en parler. J'aurais voulu trouver un épilogue pour achever ce journal, mais il n'y en a pas. Tout ne fait que continuer et empirer. À l'instant, j'entends des versets du Coran. Je doute que les Arabes prient pour nous. Ils doivent bien plus attiser leur haine. Les soldats ne les inquiètent ni ne les apaisent, puisqu'ils sont là pour enfermer les Juifs. Les gens d'ici parlent beaucoup du livre de Daniel. Il contient un passage où Daniel prophétise que les Ismaélites accroîtront leur pouvoir et feront régner leur loi sur la terre sacrée avant la venue du Messie. Alors, les Juifs, lèvent leurs mains vers le ciel pour être entendus. Que peuvent-ils faire d'autre ? 2 août. Les soldats sont de retour aux portes de Kiryat Arba. Les services secrets ont reçu des informations. Un groupe de terroristes circulant dans Hébron et qui a déjà assassiné beaucoup des nôtres se prépare à frapper à nouveau. Joshua, mon petit garçon de 11 ans, est allé à la porte sud près de chez nous se mêler aux soldats. Il est revenu avec quelques informations qui pourraient être précieuses. L'un des chefs terroristes s'appelle Capicha. L'autre porte sur le front entre les deux yeux la cicatrice d'une balle. 13 août. Cette semaine, 6 nouvelles familles se sont installées dans Kiryat Arba. Ces gens viennent de la frontière indo-birmane et sont, selon la tradition, des descendants des tribus perdues de Ménécha. Ils ont la peau sombre, les yeux bridés et haïssent profondément les musulmans. Faisant le tour de Kiryat Arba et découvrant les maisons arabes de l'autre côté des grillages, ils nous ont demandé, dans leur hébreu encore maladroit, « Sont-ils musulmans ?»« Oui, bien sûr. Et on peut les tuer ?» 14 août. Paix avec la Jordanie. Libre passage de la frontière. Cette paix risque d'amener l'internationalisation d'Israël. Une assimilation des Juifs avec les autres nations de la terre. Une dilution et une disparition définitive de l'âme ancienne des Juifs. Sommes-nous donc revenus sur notre terre pour nous y dissoudre dans les peuples du monde ? Les Juifs sont un peuple en soi, et c'est le manque de paix avec les autres qui a préservé notre personnalité. Des relations ouvertes avec la Jordanie signifient encore plus d'Arabes se déversant parmi nous et brouillant notre devenir. Selon l'ambassadeur indien, il y aurait 130 millions de Juifs des tribus perdues de Ménaché vivant sur la frontière indo-birmane. Franck me fait remarquer que la prophétie du retour en Israël est en lien direct avec la construction du second temple qui d'ores et déjà a été construit et détruit. Une note. La destruction du premier temple, suivie de celle de Jérusalem, est ordonnée par Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Ce peut être considéré comme la clôture de la période prophétique. Mais le fait juif s'impose à nouveau face aux Romains au début de l'ère chrétienne. La destruction du second temple construit à Jérusalem est ordonnée par Titus en 70 après Jésus-Christ. Nulle part il n'est prophétisé la construction d'un troisième temple. Dieu voudrait-il nous dire « Ok, Juifs, vous êtes seuls, vous voulez revenir en Israël, c'est votre affaire. Cela n'a rien à voir avec ma Bible ni moi. » Ou, comme cela est dit souvent, le second temple ne fut pas le bon. Ce ne fut qu'une terrible erreur et il nous faut continuer à assumer la prophétie. Ou encore, comme le pensent les ultra-orthodoxes, ceux qui ne reconnaissent aucun droit ni pouvoir à un gouvernement séculier, le troisième temple sera-t-il le fruit d'un pur miracle et descendra-t-il des cieux tandis que les Juifs accourront de tous les coins du monde sur les ailes d'un aigle, et que le Messie entrera dans son royaume sur un âne blanc? Je ne sais pas, je ne sais plus. Qui peut savoir ce que signifie au bout du compte cette paix avec la Jordanie, l'internationalisation d'Israël, la sécularisation de la Terre Sainte? Ontologique humilité, comme dit Franck. 26 août. À 8h30 ce matin, une explosion devant la porte sud de Kiryat Arba, à une trentaine de mètres de notre chambre. Une cinquantaine de personnes revenaient de la prière, mais aucune ne fut blessée. 5 septembre. De nouveau, une foule de journalistes et de photographes sous nos fenêtres. Il y a 6 mois, c'était à cause de Baruch Goldstein. Ce matin, c'est à cause de notre voisin du dessus, Oren Eldry. Oren a 22 ans et est officier dans l'armée. Il vient d'être arrêté, soupçonné d'avoir fourni des armes à une organisation clandestine juive dans le but de fomenter des attentats contre la politique la population arabe. Oren devait se marier dans quelque temps. Au lieu de quoi, il est en prison. Nous le connaissons depuis 12 ans. C'est le soutien de sa famille et je ne l'ai jamais vu causer le moindre trouble. Il vient tout le temps chez nous pour chercher des outils afin de réparer une chose ou une autre dans l'appartement de sa mère. 7 septembre. La police ne cesse de patrouiller dans Kiryat Arba. De nouvelles arrestations ont eu lieu aux portes de la colonie. Après Oren, les frères Callahan. Selon les militaires, ses voisins sont des terroristes. Ido Elba est en fuite. Nous le connaissons depuis des années. Il a abandonné l'armée pour étudier la Torah. Ce n'est ni un militant, ni un extrémiste. Sa seule intervention politique est d'avoir fait des discours pour inciter les filles à se marier très jeunes. 9 septembre. 6 arrestations en tout cette semaine. Qui seront les suivants? Confusion totale. Dieu nous a-t-il vraiment choisis? Ou a-t-il choisi les Arabes? En secret, beaucoup de gens deviennent agnostiques. La foi, quand vient l'heure de l'épreuve, se brise si facilement. Il paraît que, dans Hébron, les militaires israéliens ont mis en place un centre de commutation téléphonique hyper moderne. Des ordinateurs reliés aux centrales écoutent toutes les conversations juives et, selon les mots prononcés, ils déclenchent automatiquement un enregistrement de l'ordinateur central des services secrets. Question : quels sont les bons mots ? Simon ? Lévo ? Goldstein ? Tuer ? Ou Dieu ? 12 septembre. Ici, les gens ont peur d'une purge parmi les officiers religieux. Le fils d'un autre voisin, un militaire lui aussi, vient d'être arrêté. C'est la panique dans les familles. Puis encore, des noms commencent à circuler sur une liste. Un tel ou une telle parmi nos voisins serait un agent des services secrets. De toute évidence, il s'agit de mensonges et de délations ridicules, vieilles tactiques des pays totalitaires et fascistes, pour détruire notre communauté. Tout le monde va bientôt avoir peur de son ombre. Oren Eldry a déclaré que les hommes des services secrets ont saisi ses kippos en criant « Vous, les religieux, vous êtes la pornographie de notre pays !» En conséquence de quoi, Frank a décidé de porter désormais une kippa lorsqu'il sortira de Kiryat Arba. Étonnamment, en ce mois de juin, une certaine liberté semblait s'installer sur Kiryat Arba. Mais rien n'étant parfait, lorsque Myriam, l'épouse de Baruch Goldstein, veut connaître dans quelles circonstances son mari est mort, la chose est impossible. Le gouvernement n'a arrêté ni jugé aucun de ceux qui ont tué son mari. Il n'y a pas eu de jugement. Alors que la justice a infligé la prison à vie à un colon pour avoir tué un arabe qui venait de poignarder un de ses voisins. La police n'a pas de réponse à donner. Y a-t-il 2 poids et 2 mesures selon que l'on est arabe ou colon? Mais la vie continue et les morts se multiplient. En août, une période plus tranquille se préparerait-elle? La paix avec la Jordanie et un libre passage de la frontière? Espérons que notre lecture, lors du prochain épisode, nous apportera un peu de sérénité. À bientôt, chers auditeurs, pour la suite du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.